dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que nous pourrons arroser et voir grandir. Bonjour Karine.
Bonjour Sophie. Et oui, nous sommes les apicultrices qui vous accompagneront tous les vendredis à 9h10 des semaines impaires. Si vous souhaitez réagir à notre émission, vous pouvez le faire sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. Et aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, nous recevons Karine Trio, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Qui est conseillère conjugale et familiale et nous allons parler d'amour pendant une demi-heure. Bonjour Karine.
Bonjour.
Bonjour Karine.
Alors dites-nous, parlez-nous de votre parcours, de voilà, comment vous en êtes arrivée là, comment... voilà.
Faites-nous rêver.
Au moins.
De l'amour, de l'amour, de l'amour.
De l'amour, de l'amour, de l'amour. Moi, je suis conseillère conjugale et familiale. Donc, qu'est-ce que c'est un conseiller conjugal et familial ? Ce n'est pas tant quelqu'un qui donne des conseils que quelqu'un qui s'intéresse à la relation. Ça vient de l'américain, ça veut dire tenir conseil. Et nous sommes les garants dans notre cabinet que la parole puisse circuler, que chacun puisse s'exprimer et être entendu. Et puis, on va aller, on va chercher, on va observer avec les personnes qui viennent nous voir. Ça peut être un couple ou des parents et des enfants. Parfois, des parents et des enfants adultes. On va aller voir dans la relation qu'est-ce qui fonctionne bien et dans ces cas-là, comment ça se passe. Et puis, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et dans ces cas-là, on va aller un petit peu gratouiller. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là et qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que l'autre entend ? Ah bon, mais vous avez entendu ça, mais ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Voilà. Et on va pouvoir inviter les gens à prendre conscience de l'impact de leurs expressions de visage, du non-verbal, mais aussi des mots qui n'ont pas toujours le même sens pour les uns ou pour les autres. Et puis, quand on prend conscience de ce qu'on fait et de l'impact sur les autres, eh bien, souvent, dans un couple, quand même, on s'aime. Et donc, on va changer deux, trois choses. Et ça va changer la relation.
Alors, quel style de personnes viennent vous voir ? C'est des personnes qui sont en instance de séparation ou qui cherchent justement à se ressouder ou, voilà. Parce que par rapport à un avocat, vous voyez, par rapport à un psychologue de couple, par rapport à... Voilà. C'est quoi la différence ?
Pourquoi viendrez me voir ? Eh bien, les gens qui viennent me voir, ce sont des gens qui sont insatisfaits de leur relation. Alors certains, ils sont tellement satisfaits qu'ils veulent partir. Et dans ces cas-là, le conjoint va les raccrocher au collet et en leur disant « Hop, attends, on va aller voir un conseiller conjugal ». Et puis, y en a d'autres qui viennent beaucoup plus tôt. Ce que je trouve assez génial, ça fait une dizaine d'années que je suis installée. Et les premières années, j'avais surtout des gens de plus de 50 ans. Et de plus en plus, le public se rajeunit parce que les jeunes ont beaucoup plus la conscience en fait du lien fragile. Souvent, ils ont eu des parents eux-mêmes séparés et donc j'ai parfois des jeunes couples sans enfants, même qui parfois ne vivent même pas ensemble et qui viennent en disant voilà, nous on a un projet, on a envie de vivre ensemble, on a envie d'avoir des enfants, mais on trouve qu'on se dispute quand même vraiment beaucoup et on vient vous voir pour essayer de comprendre pourquoi et peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble, peut-être qu'en fait on n'arrive pas à se comprendre, mais en tout cas on a envie de savoir, on a envie de comprendre.
Ah, c'est beau ça.
Et donc, ouais, c'est super.
Et un couple qui se dispute, du coup, c'est sain, c'est bon pour le couple, c'est signe de séparation, c'est...
En fait, le conflit, c'est inhérent à la relation de couple. Ouais. Dans le couple, on oscille toujours entre l'envie de fusion et puis l'envie d'exister pour soi et de ne pas se faire bouffer par l'autre. Et donc, on a plus ou moins, on n'a pas tous les mêmes histoires, les mêmes bagages. Donc, certains sont plus fusionnels que d'autres, d'autres sont plus indépendants que d'autres. Mais souvent, on va osciller un peu entre les deux. Et le conflit, il dit quelque chose de ça. Il dit qu'on n'est pas pareil. Il dit que l'autre est autre. Vous savez, comme Jean-Paul Sartre avait dit, l'enfer, c'est les autres. Bah, c'est sûr qu'un autre que moi, qui serait exactement comme moi, ce serait quand même beaucoup plus pratique. Hein. Il rangerait les courses comme moi, il plierait le linge comme moi, et il aimerait les mêmes sorties que moi. Mais en même temps, ce serait quand même pas très amusant.
Ce serait un peu chiant.
L'autre est autre et c'est ça en fait qui va éveiller ma curiosité. Et en même temps que ça éveille la curiosité, du coup forcément ça fait des frictions. L'idée c'est d'apprendre à se parler pour que le conflit n'en soit plus à casser la vaisselle et à se hurler dessus, mais juste à dire « alors quand tu fais ça, ça va pas du tout pour moi ». « Ah bon, ça va pas du tout pour toi, mais pourquoi ?» Pourtant, c'est complètement normal ce que je fais. Alors attends, je vais t'expliquer. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se parler vraiment profondément de ce qu'on ressent et de nos besoins.
Oui, parce que des fois, on ne se rend pas compte. Hein. On a des habitudes en plus. Suivant l'âge auquel on se rend compte, enfin, on a une vie avant, donc on a des habitudes, et ce n'est pas évident.
Mais oui, on est issu d'une famille, d'un milieu, avec des habitudes relationnelles aussi, dans telle famille... On va parler très fort et on va s'interrompre et on va beaucoup argumenter. Et dans tel autre, le conflit est un gros mot. Et donc, il ne se passe rien. Et donc forcément, bah, quand c'est les deux membres de cette famille se retrouvent en couple, bah, y en a un qui va trouver naturel de pouvoir parler fort et s'interrompre et argumenter, et l'autre va trouver ça ultra agressant. Donc il va falloir apprendre, décoder, comprendre comment chacun fonctionne et comment à deux, on va pouvoir inventer un mode de fonctionnement qui soit sécure pour les deux.
Alors, est-ce que c'est une question d'âge ? Est-ce qu'il est plus difficile de se remettre en couple après, mettons, 40, 50 ans ou que quand on a 20 ans ? Est-ce qu'on a encore plus de vécu arrivé à 50 ans ? Plus d'habitude, peut-être ?
Je pense qu'à 20 ans, l'avantage, c'est qu'on est encore très souple et adaptable. Oui. Et qu'on n'a pas encore trop de manie de célibataire. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'on ne se connaît pas très bien. Donc, si on se met en couple trop tôt, eh bien, on risque de se tromper parce que on n'est pas construit soi-même. En fait, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut. À l'inverse, quand on a déjà eu des histoires, eh bien, ça veut dire qu'on a déjà eu des ruptures. Si on a déjà eu des ruptures, c'est qu'on a déjà été blessé. Donc, parfois, quand on est blessé, on sort l'armure, la coquille, éventuellement l'épée et le bouclier, et on n'est pas très accessible.
Sophie, ça t'inspire ?
Ça m'inspire. Et justement, quand je vous écoute, ça veut dire que vous faites des ateliers de communication bienveillante. Est-ce que vous faites des choses comme ça ou vous recevez les gens
Alors non, non, non. Moi, je reçois les couples dans mon cabinet, au sein de l'association Plus Belle Ma Vie. En revanche, oui, je vais les inviter vraiment à faire des choses à côté. Oui, ça peut être je les envoie facilement vers des modules de formation de communication non violente. Alors, on fait de l'initiation au sein du couple, hein, au sein du cabinet.
D'accord.
Mais oui, effectivement, je peux parfois les envoyer vers une formation dont j'entends parler à l'écoute ou une formation à la communication. La CNV, c'est quelque chose de magique, c'est extraordinaire.
Ouais. Je l'ai appris et c'est vrai que moi, j'étais carrément avec mes étiquettes au début en train de dire « Bon, alors attends, je ressens que... » Non, mais c'est vrai, au moins, ça permet aussi de s'arrêter et de se dire « Bon... »
Oui, oui, oui.
Alors après, aussi, ça peut être pénible de dire « Oui, c'est bon, j'en ai marre que tu ressentes. » Mais c'est vrai qu'à force de le faire, ça peut être... c'est intéressant.
En fait, ce qui est intéressant dans la communication non-violente, c'est que c'est déjà d'abord un mode de relation avec soi-même. Donc, c'est déjà prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps et quelle est mon émotion, et apprendre ne serait-ce que le vocabulaire des émotions. C'est pas la même chose d'être ulcéré ou d'être agacé.
Oui.
Et en fait, très souvent, on n'a même pas cette gradation de l'émotion. Et donc, on va tout de suite... soit on dit rien et on accumule, on accumule, on accumule, on accumule, parce qu'on veut pas être violent. Et du coup, forcément, on explose. Et là, pour le coup, on est violent. Parce que on pense que c'est pas bien de dire à l'autre que quand il fait ça, ça m'embête, ça va pas être très ouvert, pas très tolérant, ça risque de lui faire de la peine. Oui, enfin, sauf que le jour où on explose en mode Etna, on fait beaucoup plus de dégâts.
Ça serait plus mon style, ça.
Et donc, effectivement, apprendre déjà à reconnaître dans son corps les signes de où je commence à être crispée, là, je sens qu'il y a quelque chose qui m'énerve, et apprendre à le dire, à le reconnaître, à le dire, à trouver l'émotion. Et puis ensuite à formuler à l'autre. Enfin, d'abord, quel est le besoin associé à cette émotion ? Et les émotions, elles ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là pour nous donner une information. Et dans notre. Alors, par exemple, moi, je pensais récemment, quelqu'un me partageait une tristesse, quelqu'un qu'elle avait perdu et ça la faisait beaucoup pleurer. Et elle s'excusait de pleurer. Et en fait, je lui ai dit, mais la tristesse, elle est là pour nous dire ce à quoi ou ce à qui on a tenu. Et c'est précieux. Réjouissez-vous d'être triste d'avoir perdu cette personne, c'est le signe que vous aviez une belle relation, qu'elle était précieuse. Et de la même manière, la colère, c'est plutôt mal vu dans notre société, on n'a pas le droit d'être en colère, c'est pas bien, mais la colère, elle est là pour nous dire les valeurs qui sont importantes pour nous, elle est là pour nous aider à protéger ceux qui sont importants pour nous, nos enfants par exemple. Si on n'avait pas de colère, on laisserait n'importe qui rentrer chez nous et violer nos enfants. Donc c'est important de savoir se défendre.
C'est vrai, mais c'est vrai que souvent, enfin moi je trouve que la société, on ne s'autorise pas à être justement en colère, triste. Enfin, déjà tout petit, on nous dit arrête de pleurer, sois pas triste, sois pas.
On le dit moins quand même aujourd'hui.
Oui, peut-être. Sans doute. Je vous parle de ça. Ça commence à faire un moment, mais c'est bien justement. C'est bien. Et au niveau. Alors, je ne sais pas si on peut parler de résultats des séances, mais.
Je vais juste me permettre de revenir sur l'expression de la colère, l'expression de l'émotion. Oui, c'est bien d'identifier l'émotion et d'être congruent avec soi-même, mais c'est aussi la question de l'expression de l'émotion. Et l'expression de l'émotion, elle est culturelle. On n'exprime pas le deuil de la même manière en Afrique du Nord, au Japon ou en France. Et donc, de la même manière, ben, la colère, on n'est pas obligé de l'exprimer en mode bombe nucléaire. On peut l'exprimer en mode, de manière très claire, en fait. Attends, là, il faut que je t'explique, t'es en train d'attaquer mes valeurs et c'est compliqué pour moi. Ouais. Donc, j'aimerais te faire une demande. Et après, on va pouvoir faire des demandes et on peut le faire de manière tout à fait calme. On n'est pas obligé d'être hystérique ou violent pour se faire respecter, pour faire respecter nos valeurs.
C'était peut-être la définition qu'on avait de la colère. On croit que la colère, c'est de crier.
Oui, mais ça sert à rien. On croit que la colère, voilà, c'est forcément vrai. De la violence.
C'est ça. Comme être triste, c'est comme si on faisait que de pleurer. Mais comme vous avez dit, d'un côté, pleurer, c'est pas mal. Et crier, bah oui, des fois, on connaît que ce mode d'emploi. Et il y a des gens qui arrivent à nous montrer qu'on peut dire qu'on est en colère sans crier.
Ouais. Ouais, on peut faire autrement.
Oui.
Du coup, on reprend la question que vous posiez. Qu'est-ce que ça donne les entretiens?
Oui, au niveau, est-ce qu'il y a des, enfin, j'imagine, il y a des bons résultats. Il y a des, est-ce que tous les couples repartent main dans la main ou est-ce que...
En fait, il y a des couples qui viennent pour se donner bonne conscience, mais il y en a un des deux qui est déjà parti dans son cœur ou qui est déjà parti complètement concrètement avec quelqu'un d'autre, qui a déjà quelqu'un d'autre avec qui il a une relation déjà. Dans ces cas-là, ça marche pas. Pas souvent. Parfois, il y en a un des deux qui est vraiment moteur et l'autre vient pour lui faire plaisir, mais finalement, il se prend au jeu. Et ça, c'est mon job de thérapeute. Du coup, c'est de réussir à ce qu'il ait confiance et à ce qu'il ait envie de s'engager dans la démarche. Et ça peut marcher. Et puis, l'idéal, c'est quand les deux ont envie de... Les deux se disent, en fait, il y a un truc qui ne va pas dans notre couple et on a envie de le changer parce qu'on s'aime et qu'on y croit. Et là, dans ces cas-là, oui, ça marche vraiment bien. Et puis parfois, il n'y en a qu'un des deux qui vient parce que l'autre n'a pas envie de venir. Et dans tous les cas, le fait que la personne vienne et qu'elle ait un lieu où déposer, où avoir un effet miroir, elle va changer de comportement. Et comme elle va changer de comportement, ça va obliger l'autre à changer aussi.
Et est-ce qu'il y a des célibataires aussi qui viennent ?
Oui, tout à fait. Il y a des célibataires qui viennent parfois, soit parce qu'ils sont dans une relation et qu'ils ont du mal à la comprendre, ou à se positionner, soit parce qu'ils n'arrivent pas à nouer de relation et que ça les questionne en disant mais qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je suis pas normale, et donc on va observer, décortiquer, qu'est-ce qui vous est arrivé, quelles sont les rencontres que vous avez faites, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez observé.
D'accord. Ouais, donc conseiller conjugal ne veut pas dire que couple, en fin de compte. On peut être sorti d'une séparation et de ça, être seul et venir vous voir.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis, oui, parfois, il y a des couples, pardon, il y a des couples qui viennent et qui vont quand même se séparer. Mais le temps d'échange au sein du cabinet, ça aura permis de dégonfler les conflits, d'apaiser les conflits. Et du coup, la séparation se passera mieux. Il y aura moins de conflits autour de la garde des enfants, autour de la pension alimentaire, autour du... t'as pas rendu le bon cartable, le bon cahier. Et ça va permettre une séparation plus apaisée.
D'accord, c'est des sujets qu'ils abordent.
Oui, tout à fait. Oui. On aborde à la fois des sujets qui sont émotionnels, qui peuvent être parfois du domaine des valeurs, et puis aussi des choses très concrètes. Tu ramasses jamais tes chaussettes.
Oui, c'est vrai, c'est agaçant ça.
Il paraît.
Et donc aujourd'hui, j'avais envie aussi de dire que l'amour, c'est vaste.
Oui.
L'amour, oui, bien sûr, l'amour, c'est vaste. Il n'y a pas que la relation amoureuse dans nos vies. Évidemment, heureusement, on construit un tissu, un réseau de relations affectives. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'amour, ça, la relation amoureuse, parfois, elle est survalorisée et on en attend peut-être un peu trop.
Oui.
On va aujourd'hui attendre de son conjoint qu'il soit un bon père, un bon mari, un bon amant, quelqu'un qui nous mette en sécurité, quelqu'un qui soit notre meilleur pote, quelqu'un qui s'entende avec nos frères et sœurs et nos cousins, et quelqu'un qui soit passionnant.
Mais
en
fait,
on peut pas tout être, en fait. On peut pas totalement être comblé par un autre. Et pour autant, c'est vrai que le couple, c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses, mais il se passe pas que ça, en fait. On peut avoir un conjoint avec qui, par exemple, on partage aucune activité, mais comme la communication est bonne, on va partager ce qu'on a ressenti dans ces activités avec les autres. Ça veut pas dire qu'on va mal. On peut avoir un conjoint ou une conjointe pas sociable, mais on va avoir ses copains ou ses copines à côté, et ça veut pas dire que le couple va mal.
C'est intéressant.
Très, très, très intéressant.
Ça permet de déculpabiliser aussi, de croire que le couple, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a tout.
Ouais, il n'est pas tout. Ouais. Voilà. et donc accepter l'imperfection de mon conjoint ou ma conjointe qui n'est pas toujours, qui n'est pas à tous les endroits où je voudrais qu'il ou qu'elle soit.
Et ça, je pense que ça doit aider beaucoup de couples le jour que vous le dites. Non, mais il y a peut-être des couples qui viennent vous voir et puis en, d'entendre ça, déjà se dire ah ouais.
Ben, j'imagine, j'espère.
Bon, moi, le message, il passe. Hein. Bon.
C'est sûr.
Et ben, on va faire une petite pause musicale. Ça passe vite le temps.
Et après, on parlera des balades romantiques dans la ville d'Angers.
Ah, attention. À tout de
suite. À tout de suite.
Done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Après une petite pause musicale avec Karine.
Et Karine.
Et Karine.
C'est la journée des Karines. Alors Karine, on va parler maintenant de la différence entre le sentiment amoureux et l'amour.
Souvent les couples arrivent en me disant « mais finalement, moi je ne ressens plus rien, donc je pense que je ne l'aime plus ». Et en fait, il se trouve qu'au début de la relation amoureuse, on a une période un peu qu'on appelle de lune de miel, nous dans le jargon professionnel. Et ça peut durer entre 3 jours et 3 ans. Et c'est ce temps où finalement, de manière naturelle, on est moustillé par l'autre, on a des papillons dans le ventre, tout nous intéresse chez l'autre et c'est complètement magique et extraordinaire. Et dans cette période-là, eh bien, on a des hormones chimiques, hein, des hormones qui font en sorte qu'on n'ait plus de peur. Et donc, on se révèle le meilleur de soi-même et on voit le meilleur de l'autre. Et donc, on a l'impression que cette période-là, eh bien, c'est le vrai amour. Sauf que cette période-là, c'est une période où le cerveau est en ébullition et il ne pourrait pas tenir Ce serait comme si vous faisiez une soirée de réveillon avec talons hauts, barésie, strass, paillettes, champagne, musique à gogo. On ne pourrait pas tenir 365 jours comme ça. Nos cerveaux, ils se fatigueraient trop. Et bien là, c'est un peu pareil. On a cette espèce de shoot d'hormones, ce shoot d'excitation. Et si on avait ça tout le temps, toute la vie, en fait, notre cerveau, il disjoncterait. Et c'est pour ça qu'il y a un système, une fois que l'affiliation est faite avec l'autre, entre 3 jours et 3 ans, eh bien les hormones baissent. On retrouve nos peurs, on retrouve nos centres d'intérêt. En fait, si on revenait à l'ère de Cro-Magnon, eh bien, du coup, on va recommencer à protéger la caverne, on va recommencer à nourrir le feu, on va recommencer à vérifier qu'il n'y a pas un fauve pour nous attaquer, et on va recommencer à aller à la chasse. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir l'impression qu'on n'est plus amoureux. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que va commencer l'amour. En fait, l'amour, eh bien, c'est soit à ce moment-là, on se quitte, et donc, effectivement, il n'y a pas d'amour, soit on a suffisamment d'intérêt pour l'autre pour avoir envie de construire quelque chose avec lui. Et là, eh ben, on va retrousser nos manches et on va décider de le connaître vraiment sans ces shoots d'hormones et sans ces lunettes roses qui l'embellissent finalement. Et donc, c'est accepter l'autre avec ses différences, accepter son altérité, accepter la richesse de son histoire qui n'est pas la nôtre, accepter de sortir de sa zone de confort pour le bien de l'autre. Ça veut dire qu'il y a des moments où on va faire des choses qui ne nous disent rien, mais parce que ça fera plaisir à l'autre. On va au cinéma et c'est pas chacun dans sa salle de cinéma, c'est « Ah bah d'accord, toi t'aimes bien les films de science-fiction, bon, écoute, a priori, moi c'est pas mon truc, mais ok, avec toi, je vais découvrir. » Et « Ah bah d'accord, mais alors toi t'aimes bien les films d'arrêt d'essai, et c'est pas mon truc non plus, mais bah, la prochaine fois, c'est ton film à toi. » Et en fait, en faisant ça, on va élargir nos compétences, on va élargir notre curiosité, notre intelligence, et on va construire la relation avec l'autre. Voilà, et donc finalement, bah, l'amour, eh ben, c'est faire des efforts et c'est poser des actes. C'est pas que des paroles.
Et je pensais à l'attachement dans tout ça. Est-ce qu'il y a une notion d'attachement quand même quand on est en couple ou...
Alors, on a des attachements différents et parfois, on a des besoins différents. Tout à l'heure, je vous parlais de fusion et séparation. Eh bien, c'est vrai que dans nos modes d'attachement, parfois, l'un est plus fusionnel que l'autre et l'autre est plus indépendant que l'autre. Et alors, quand les deux sont fusionnels, c'est génial. Finalement, on peut s'amuser de l'extérieur en disant « Oh là là, mais ils sont tout le temps fourrés ensemble. » Bah, c'est pas grave. Si ça convient aux deux, c'est pas un problème. Parfois, il y a des couples où ils sont tous les deux indépendants et si ça convient aux deux, très bien. Le problème, en fait, c'est quand il y en a un qui est très fusionnel et qui a envie d'être tout le temps avec l'autre. Et l'autre qui dit « Oh, au secours, je respire plus, j'ai besoin d'oxygène. » Voilà. Et donc, on va pas pouvoir... il va falloir trouver un mode de fonctionnement à deux pour que chacun soit suffisamment bien avec lui-même, répare ses blessures aussi, hein, répare ce mode d'attachement qui est peut-être un petit peu enfantin, et accepte le fait que l'autre, il ne va pas pouvoir le combler à 100%.
En fait, il n'y a pas de règle dans le couple.
Non, il n'y a pas de règle dans le couple. Ce qui fait le couple, c'est le désir. Oui, c'est l'envie d'être en couple. Oui. Et il n'y a pas de conjoint parfait, il n'y a pas d'amoureux parfait, il y a l'envie d'être ensemble et de construire ensemble et de retrousser ses manches ensemble.
Non, mais c'est beau.
Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est
beau. Alors, la question, c'est qu'on a ce sentiment amoureux du départ qui nous tombe tout court. Après, souvent, en fait, on est en mode construction du couple. Donc, on va avoir des enfants, on va acheter une maison, la retaper. Et donc, tout ce temps de projet, c'est très excitant. Et donc, finalement, ça va poursuivre l'excitation naturelle du début. Donc, même si on a moins d'hormones, même si on tombe un peu dans de la routine, ce temps de construction, là, il est suffisamment emballant pour continuer à nourrir le couple en roue libre. Ce qui peut être une période délicate, c'est la période où finalement, ben voilà, on a fini la maison, on a le nombre d'enfants qu'on voulait, on a à peu près trouvé un mode. Alors soit ça peut être après la naissance des enfants, et là on est fatigué, on est épuisé, et donc la fatigue fait qu'on est irritable, soit au contraire, tout roule, on n'a pas d'épreuves à affronter ensemble, parce que la vie est plutôt rose, et donc finalement, on peut avoir un ennui qui nous tombe dessus, en disant, en fait, je m'enquiquine, elle est nulle cette vie, quoi.
Oui, la routine.
Voilà, la routine. Alors, heureusement, eh bien, on peut entretenir la flamme et on peut nourrir ce sentiment amoureux pour continuer à avoir du plaisir à être ensemble.
Alors, un exemple pour donner envie à nos auditeurs et auditrices.
Eh bien, un exemple, c'est justement avec l'association Plus Belle Ma Vie et la Ville d'Angers, on a créé une balade romantique. La balade romantique, c'est un parcours dans Angers, du bas de la cathédrale jusqu'à la place de la Paix, avec des citations de poètes et d'écrivains sur l'amour. Et on est parti du principe que plus on se dit qu'on s'aime, et pourquoi on s'aime, et plus on évoque des souvenirs ensemble, et plus on fait couple en ayant cette histoire commune et cette valorisation de l'autre, et ben plus on s'aime en fait. Ça crée des hormones, des endorphines, ça crée du couple, ça crée de la complicité, de l'intimité. Et donc voilà, on a imaginé cette balade. Et pour la Saint-Valentin, eh bien, du coup, on invite les couples à venir à l'association Plus Belle Ma Vie, à prendre une petite coupe ou un petit cocktail sans alcool. On va leur remettre une carte avec le déroulé du parcours. Et puis ensuite, on va les laisser partir en amoureux, déclarer leur flamme comme ils ont envie de le déclarer, mais parfois en s'inspirant peut-être des citations des poètes, des écrivains. Et puis sur le parcours, dans un endroit un peu surprise, eh bien, il y aura une photographe qui va pouvoir les prendre en photo. Et s'ils le souhaitent, ils pourront acheter la photo.
Donc ça, c'est aujourd'hui, donc 14
c'est
février.
C'est aujourd'hui, exactement.
D'accord. Et
ce soir, à 19h, à partir de 19h, entre 19h et 21h, à l'association Plus Belle Ma Vie.
D'accord. Alors, je parle toujours de l'aspect financier, mais le coût de cette balade.
La balade, c'est gratuit.
Ah, c'est super, ça.
Voilà, le cocktail, la balade, c'est gratuit. La photographe, j'ai pas le prix sur moi, je suis désolée.
Non, mais c'est déjà beaucoup, parce que c'est une très bonne idée. Et le reste de l'année, est-ce qu'on peut faire cette balade ou c'est qu'aujourd'hui, 14 février ?
Non, le reste de l'année, on peut faire cette balade. Ouais. Et moi, j'invite vraiment les couples à prendre des temps réguliers à deux, sans enfants, pour se parler, sans enfants, sans smartphone, sans potes, sans famille, ouais. Pour avoir du temps pour se parler et se dire non pas la logistique de « tu iras chercher les enfants et t'as pas fait la lessive ». Mais qu'est-ce que t'as... Ah, mais t'as fait ça avec ton boulot cette semaine, et c'était comment? Et qu'est-ce que t'as ressenti? Et ça t'a pas fait un peu drôle de faire ça? Voilà. Et vraiment partager sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, ça crée cette intimité, ça entretient cette intimité et ce lien qui est privilégié.
T'es combien de temps pour la balade, à peu près?
Oh, ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, ça peut se faire plus, on s'arrête plus. Et puis surtout, on peut en faire une partie et pas la totalité. Vraiment, c'est pas une compétition.
Oui, il y a pas de
normes.
Pas un rallye.
Voilà, la soirée est à vous. Vous la faites comme vous voulez.
Mais c'est super avec un petit resto après.
Voilà. Et en fait, je pensais même que pour les jeunes parents qui ne peuvent pas se faire de resto ou qui ne peuvent pas faire garder les enfants avec un bébé, c'est complètement faisable en porte-bébé ou en poussette de se balader.
Non, c'est vraiment une super idée ça.
Au moins découvrir Angers autrement.
Oui, on a la chance de vivre dans une vraiment une belle ville avec des beaux bâtiments, de la verdure, c'est chouette.
Non, c'est une belle initiative.
Donc ça y est, les 30 minutes sont passées, Karine.
Déjà.
Les Karine, ouais. Mais merci Karine.
Merci beaucoup Karine.
Avec joie.
Pour ce partage.
Ouais.
Donc on peut vous retrouver.
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site plusbellemavie.fr.
D'accord, très bien. C'est un cabinet où il y a plusieurs personnes.
Oui, c'est ça. C'est une association qui regroupe des professionnels de la relation, psy... sophrologue, conseiller conjugaux, coach professionnel. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver, avec parfois des approches pluridisciplinaires, un accompagnement pour prendre soin des relations, prendre soin de son couple, prendre soin de sa famille.
Bon, bah merci. Hein, merci d'être venue.
Merci beaucoup, Karine.
Et passez tous une très belle journée.
Et ben oui, pleine d'amour.
Ouais, à bientôt exactement. Et à tout à l'heure pour les couples qui nous rejoindront.
Oui, exactement. Merci.
Bonne journée. Au revoir. By the way.